La répartition mondiale du revenu, plus inégale que la production. Pour simplifier l'exposition, nous avons supposé jusqu'ici que le revenu national et la production intérieure coïncidaient au sein de chaque bloc continental ou régional. Les revenus mensuels indiqués précédemment ont simplement été obtenus en diminuant les PIB de 10% pour tenir compte de la dépréciation du capital et en les divisant par 12. En réalité, cette égalité entre revenus et production n'est valable qu'au niveau mondial et non au niveau national ou continental. De façon générale, la répartition mondiale du revenu est plus inégale que celle de la production, car les pays qui ont la production par habitant la plus élevée ont également tendance à détenir une partie du capital des autres pays, et donc à recevoir un flux positif de revenus du capital en provenance des pays dont la production par habitant est la plus faible. Autrement dit, les pays riches le sont doublement à la fois en production intérieure et en capital investi à l'extérieur, ce qui leur permet de disposer d'un revenu national supérieur à leur production, et inversement pour les pays pauvres. Par exemple, tous les principaux pays développés, États-Unis, Japon, Allemagne, France, Royaume-Uni, ont actuellement un revenu national légèrement supérieur à leur production intérieure. Ainsi que nous l'avons déjà noté, les revenus nets en provenance de l'étranger ne sont que très légèrement positifs et ne modifient pas radicalement le niveau de vie de ces pays. Ils représentent un ajout compris entre 1% et 2% de la production intérieure aux États-Unis, en France et au Royaume-Uni, entre 2% et 3% au Japon et en Allemagne. Il s'agit tout de même d'un complément de revenus non négligeable, surtout pour ces deux derniers pays qui, grâce à leurs excédents commerciaux, ont accumulé des réserves importantes vis-à-vis du reste du monde au cours des dernières décennies, ce qui leur rapporte aujourd'hui un rendement appréciable. Si l'on s'éloigne maintenant des pays les plus riches pour examiner les blocs continentaux, considérés dans leur ensemble, on constate des situations très proches de l'équilibre. En Europe, comme en Amérique et en Asie, les pays les plus riches, généralement au nord du continent, reçoivent un flux positif du revenu du capital en partie annulé par le flux versé par les autres pays, généralement plus au sud ou à l'est, si bien qu'au niveau continental, le revenu national et la production intérieure sont presque exactement égaux, généralement à moins de 0,5% près. Cela ne signifie évidemment pas que chaque continent fonctionne en vase clos. Ces flux nets dissimulent d'importantes participations croisées entre tous les continents. La seule situation de déséquilibre continental caractérisée concerne l'Afrique, qui est structurellement possédée par les autres continents. Concrètement, d'après les balances des paiements au niveau mondial établies chaque année depuis 1970 par les Nations Unies et les autres organisations internationales, Banque mondiale, FMI, le revenu national dont disposent les habitants du continent africain est systématiquement inférieur d'environ 5% à leur production intérieure. L'écart dépasse 10% dans certains pays. Avec une part du capital dans la production de l'ordre de 30%, cela signifie que près de 20% du capital africain est actuellement possédé par des propriétaires étrangers, à l'image des actionnaires londoniens de la mine de platine de Marikana, dont il était question au début de ce chapitre. Il est important de réaliser ce que signifie en pratique un tel chiffre. Compte tenu du fait que certains éléments de patrimoine, par exemple l'immobilier d'habitation ou le capital agricole, ne sont qu'assez peu possédés par les investisseurs étrangers, cela signifie que la part du capital domestique détenu par le reste du monde peut dépasser 40-50% dans l'industrie manufacturière, voire davantage dans certains secteurs. Même si les balances de paiement officielles ont de nombreuses imperfections, nous y reviendrons, il ne fait aucun doute qu'il s'agit là d'une réalité importante de l'Afrique actuelle. Si l'on remonte dans le temps, on observe des déséquilibres internationaux plus marqués encore. À la veille de la Première Guerre mondiale, le revenu national du Royaume-Uni, premier investisseur mondial, était de l'ordre de 10% plus élevé que sa production intérieure. L'écart dépassait les 5% en France, deuxième puissance coloniale et investisseur mondial, et s'en approchait en Allemagne, dont l'empire colonial était insignifiant, mais dont le développement industriel permettait une forte accumulation de créances sur le reste du monde. Une partie de ces investissements britanniques, français et allemands, étaient réalisés dans les autres pays européens ou en Amérique, et une autre part en Asie et en Afrique. Au total, on peut estimer que les puissances européennes possédaient en 1913 entre le tiers et la moitié du capital domestique asiatique et africain et plus des trois quarts du capital industriel. Dit autrement, la part de l'Asie et de l'Afrique dans la production mondiale était inférieure à 30% en 1913 et leur part dans le revenu mondial était plus proche de 25%. Quelles forces permettent la convergence entre pays? En principe, ce mécanisme par lequel les pays riches possèdent une partie des pays pauvres peut avoir des effets vertueux en termes de convergence. Si les pays riches regorgent d'épargne et de capital, à tel point qu'il ne sert plus à grand-chose de construire un immeuble supplémentaire ou d'installer une machine de plus dans leurs usines, on dit alors que la productivité marginale du capital, c'est-à-dire la production supplémentaire apportée par une nouvelle unité de capital à la marge, est très faible, alors il peut être collectivement efficace qu'ils aillent investir une partie de leur épargne dans les pays pauvres. De cette façon, les pays riches, ou tout du moins ceux en leur sein qui possèdent du capital, obtiendront un meilleur taux de rendement pour leur placement. Et les pays pauvres pourront rattraper leur retard de productivité. Ce mécanisme, basé sur la libre circulation des capitaux et l'égalisation de productivité marginale du capital au niveau mondial, est supposé être, selon la théorie économique classique au fondement du processus de convergence entre pays et de réduction tendancielle des inégalités au cours de l'histoire, grâce aux forces du marché et de la concurrence. Cette théorie optimiste a cependant deux défauts majeurs. D'abord, d'un point de vue strictement logique, ce mécanisme ne garantit en rien la convergence des revenus par habitant au niveau mondial. Au mieux, il peut conduire à la convergence des productions par habitant, à condition toutefois de supposer une parfaite mobilité du capital et surtout une égalisation complète des niveaux de qualification de la main-d'œuvre et de capital humain entre pays, ce qui n'est pas rien. Mais, dans tous les cas, cette éventuelle convergence des productions n'implique aucunement celle des revenus. Une fois les investissements réalisés, il est tout à fait possible que les pays riches continuent de posséder les pays pauvres de façon permanente, éventuellement dans des proportions massives, si bien que le revenu national des premiers est éternellement plus élevé que celui des seconds, qui continuent de verser à tout jamais une part importante de ce qu'ils produisent à leurs possédants, à l'image de l'Afrique depuis des décennies. Pour déterminer avec quelle ampleur ce type de situation est susceptible de se produire, nous verrons qu'il faut notamment comparer le taux de rendement du capital que les pays pauvres doivent rembourser aux pays riches et les taux de croissance des uns et des autres. Pour avancer dans cette voie, il nous faudra tout d'abord bien comprendre la dynamique du rapport capital-revenu au niveau d'un pays particulier. Ensuite, d'un point de vue historique, ce mécanisme à base de mobilité du capital ne semble pas être celui qui a permis la convergence entre pays, ou tout du moins pas à titre principal. Aucun des pays asiatiques qui ont connu une trajectoire de rattrapage par rapport aux pays les plus développés, qu'il s'agisse hier du Japon, de la Corée ou de Taïwan, ou aujourd'hui de la Chine, n'a bénéficié d'investissements étrangers massifs. Pour l'essentiel, tous ces pays ont financé par eux-mêmes les investissements en capital physique dont ils avaient besoin, et surtout les investissements en capital humain. L'élévation générale du niveau d'éducation et de formation, dont toutes les recherches contemporaines ont démontré qu'ils expliquaient l'essentiel de la croissance économique à long terme. Inversement, les pays possédés par d'autres, que l'on considère le cas de l'époque coloniale ou de l'Afrique actuelle, ont connu moins de succès, en particulier du fait de spécialisations parfois peu porteuses et d'une instabilité politique chronique. Il n'est pas interdit de penser que cette instabilité s'explique en partie par la raison suivante. Quand un pays est pour une large part possédé par des propriétaires étrangers, la demande sociale d'expropriation est récurrente et presque irrépressible. D'autres acteurs de la scène politique répondent que seule la protection inconditionnelle des droits de propriété initiaux permet l'investissement et le développement. Le pays se retrouve ainsi pris dans une interminable alternance de gouvernements révolutionnaires, au succès souvent limité pour ce qui est de l'amélioration réelle des conditions de vie de leur population, et de gouvernements protégeant les propriétaires en place et préparant la révolution ou le coup d'État suivant. L'inégalité de la propriété du capital est déjà une chose difficile à accepter et à organiser de façon apaisée dans le cadre d'une communauté nationale. À l'échelle internationale, c'est chose presque impossible, sauf à imaginer un rapport de domination politique de type colonial. Évidemment, l'insertion internationale n'a rien de négatif en soi. L'autarcie n'a jamais été une source de prospérité. Les pays asiatiques ont de toute évidence bénéficié pour leur rattrapage de l'ouverture internationale. Mais ils se sont surtout appuyés sur l'ouverture des marchés des biens et services et une excellente insertion dans le commerce international et beaucoup moins sur la libre circulation des capitaux. La Chine, par exemple, pratique toujours le contrôle des capitaux. On n'y investit pas librement, mais cela ne bride aucunement l'accumulation de capital, car l'épargne intérieure y est largement suffisante. Le Japon, comme la Corée ou Taïwan, ont financé leur investissement avec leur propre épargne. Les études disponibles montrent également que l'immense majorité des gains apportés par l'ouverture des échanges commerciaux provient de la diffusion des connaissances et des gains de productivité dynamique entraînés par l'ouverture, et non des gains statiques liés à la spécialisation qui apparaissent relativement modestes. D'après une étude récente, les gains statiques apportés par l'ouverture du commerce mondial à la Chine et à l'Inde ne seraient que de 0,4% du PIB mondial, 3,5% du PIB pour la Chine et 1,6% du PIB pour l'Inde. Compte tenu des énormes effets redistributifs entre secteurs et pays, avec des groupes de perdants très importants dans tous les pays, il paraît difficile de justifier l'ouverture commerciale, à laquelle les pays semblent pourtant attachés, uniquement avec de tels gains. Pour résumer, l'expérience historique suggère que le principal mécanisme permettant la convergence entre pays est la diffusion des connaissances au niveau international comme au niveau domestique. Autrement dit, les plus pauvres rattrapent les plus riches dans la mesure où ils parviennent à atteindre le même niveau de savoir technologique, de qualification, d'éducation, et non pas en devenant la propriété des plus riches. Ce processus de diffusion des connaissances ne tombe pas du ciel. Il est souvent accéléré par l'ouverture internationale et commerciale. L'autarcie ne facilite pas le transfert technologique. Et surtout, il dépend de la capacité des pays à mobiliser les financements et les institutions permettant d'investir massivement dans la formation de leur population, tout en garantissant un cadre légal prévisible pour les différents acteurs. Il est donc intimement lié au processus de construction d'une puissance publique légitime et efficace. Tels sont les principaux enseignements, rapidement résumés, qui ressortent de l'examen de l'évolution historique de la croissance mondiale et des inégalités entre pays.